Il est présentement 13h43 minutes. C'est l'émission L'Angeard, son rendez-vous d'actualité de l'heure du lunch, où on traite des plus grands dossiers, des plus grands sujets d'actualité, puis souvent un petit peu à l'avance même des médias traditionnels. On fait ça, nous autres. Donc, c'est des bonnes raisons d'écouter On en jase. Une autre bonne raison, c'est le caucus avec Antonine Iaccarini du lundi au jeudi, de midi à 12h30. Et ça se retrouve sur la page YouTube de Boulevard à chaque jour. Donc, si tu l'as manqué, tu t'en vas sur la page YouTube et tu vas pouvoir écouter le caucus avec Antonine Iaccarini. Ligue nationale, hier soir, il y avait plusieurs matchs importants. Pascal, le Canadien a encore gagné. Une sixième victoire de suite. Victoire de 4-1 du Canadien de Montréal, 47e but pour Cole Caulfield, 36 arrêts pour Jacob Dobesch. Le Canadien pointe maintenant seulement 2 points du Lightning de Tampa Bay, du deuxième rang de la division, avec 8 matchs à faire en saison régulière. C'est très excitant. Les Bruins de Denis Gravel l'ont emporté également 6-3 sur les Stars de Dallas. Ça vient pratiquement assurer une participation des Bruins aux séries éliminatoires. Ils sont la première équipe repêchée. Victor Arvidsson, un tour du chapeau, 3 buts pour lui. Les Sabres de Buffalo ont pris seul le premier rang de la division Atlantique avec une victoire de 4-3 sur les Islanders de New York. Dure défaite pour les Sénateurs d'Ottawa, 6-3 face aux Panthers de la Floride. Les Sénateurs sont toujours exclus des séries. Et même principe pour les Pingouins qui ont perdu 5-1 sur les Red Wings. Donc, c'est les Red Wings qui sont en difficulté pour une participation aux séries. Ce soir, Ligue nationale, il n'y a pas de match dans l'Est. C'est seulement des matchs dans l'Ouest. Et pas grand-chose d'intéressant, sinon que le duel à 21h entre les Ducks d'Anaheim et les Sharks de San Jose. Semaine nationale du reprenariat, Pascal. Est-ce qu'on est rendu là parce que c'est très important, on doit s'y attaquer?
On n'est pas dans le genre de semaine festive. Oui, si ça va bien pour toi, puis tu as une entreprise, puis tu as déjà pensé à qui va reprendre les rênes de ton entreprise par la suite. Mais on a créé ça, puis on met l'emphase cette semaine là-dessus parce que c'est important. Ça va énormément nuire à notre économie si ça continue de rouler comme ça roule. Environ la moitié des faillites de PME au pays, ça survient ici, au Québec. La moitié. Les entrepreneurs vivent une solitude extrême. Il y a des problèmes de santé mentale plus répandus que dans le reste de la population. Puis c'est pas une statistique là, qui est abstraite. Là. On est vraiment dans quelque chose où on n'ose plus regarder les chiffres parce que ça vient stressant pour certains. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bien, deux choses. Soit on décide qu'on ferme tout simplement, ou on revend au plus offrant, au plus rapidement. Puis des fois, c'est dans l'intérêt de pays à l'extérieur.
Bien, c'est ça que j'allais dire. Ça, si je vends au plus offrant, ça va être les Chinois qui vont nous acheter encore.
Bien, Danny Pelletier est un des intervenants avec qui j'ai parlé sur le sujet. C'est le premier vice-président au placement privé puis investissement d'impact au Fonds de solidarité FTQ. Eux, ils s'attaquent beaucoup à la problématique actuelle. C'est un sujet qui est hyper, hyper important actuellement, surtout pour notre économie.
C'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. Lorsqu'on regarde les chiffres de reprenariat Québec qui sont sortis récemment, on parle de près de 16 000 entreprises privées qui déclarent vouloir vendre ou transférer leur entreprise au cours des 12 prochains mois.
Et c'est énorme au niveau du nombre d'entreprises qui devront changer de main au cours des prochains mois.
Dans l'année. C'est 16 000.
C'est moi ou ça me rend inconfortable sur notre économie?
Bien, c'est qu'on ne voit pas souvent l'impact que ça peut avoir. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le met en lumière ensemble, parce que ça peut littéralement briser une ville, et je t'en reparle dans un instant. Pourquoi ça peut briser l'économie entière dans des régions? C'est que ça arrive qu'il y a une seule fermeture d'entreprise, Jeff, fait souffrir la région complète. Là, je ne te donne pas des cas juste isolés de mines à quelque part, même si elles comptent énormément. Puis ça, souvent, ça a mené à des villages fantômes la suite. Mais c'est d'une importance capitale de planifier la suite, parce que c'est un entrepreneur sur 10 qui a un plan de relève seulement. 4 sur 10 qui a un entrepreneur qui a un plan de relève seulement. 6 entrepreneurs sur 10 seulement qui pensent que ça prend de 1 à 3 ans pour faire son plan, quand ça prend plus que ça. Fait que souvent, ils sont à la dernière minute. Puis ça prend un plan qu'on appelle en 3 P. Planification, préparation et plan de relève qui va être mis en place par la suite. C'est une vague imposante qui est vérifiable, qui est à prendre au sérieux pour notre société.
Avec la vague qu'on voit, si on ne s'attend pas de façon très précise à ce phénomène-là, eh bien là, c'est toute l'économie de ces régions et ça, c'est vraiment important pour le Québec économique de s'assurer que ces régions-là puissent perdurer en termes de vitalité économique dans le temps.
Ça veut dire qu'on est à l'approche de voir d'autres villes fermées.
Bien, ville qui en va en souffrir énormément économiquement, ouais. qui va avoir besoin peut-être plus du gouvernement, ou l'immigration va être encore un point chaud où on va faire quoi? Parce qu'on envoie plein d'immigrants en région pour qu'ils travaillent, s'il y a des entreprises mm-hmm. qui ferment, moins d'économies qui roulent, moins de possibilités aussi de survivre. Tu sais, je veux dire, juste les petits dépanneurs, les petites épiceries, si tu n'as plus de clientèle, tu fais quoi?
Bien, c'est ça. Tu peux pas survivre. Ça, en passant, je réfléchis à voix haute, là. Chapeau à la ville de Thetford Mines, hein, qui est un modèle d'adaptation pour les personnes immigrantes. Eux, ils ont accueilli énormément d'immigration pour continuer à travailler dans les manufactures et ils ont créé une rue principale, mais multiculturelle.
Ah, super!
Fait que t'as la petite épicerie latino, t'as la petite épicerie chinoise, puis etc.
On a un peu ça à
puis
Québec.
Il y a un beau mix social, c'est vraiment
dans
bien.
Dans certains secteurs, t'as raison, puis ça me rappelle, j'avais fait un reportage avec des travailleurs mexicains à l'île d'Orléans avec les fraises, puis oui. eux, une fois par semaine, il y a un autobus scolaire qui allait les chercher, là, ils s'organisaient, ouais. puis ils venaient dans les boutiques mexicaines chercher leurs produits, bon, wow. d'importation, mais quand même, eux, ça leur ramenait à leur pays aussi. Là.
C'est vraiment une belle initiative.
Des pays étrangers qui veulent mettre la main sur ces entreprises-là, c'est loin d'être anodin et c'est essentiellement chaque jour. Il y a souvent deux choix, comme je te disais, on ferme ou on vend rapidement, donc des entreprises d'ailleurs qui en profitent. Mais c'est qui convoite nos entreprises?
Bien, ce qui est, c'est sûr que ça va dépendre aussi des industries. Hein. Si on regarde, par exemple, dans le domaine agricole, on sait que les pays asiatiques et évidemment la Chine sont très présents. On le voit notamment avec les terres qui permettent de faire du grain, mais aussi avec certaines fermes laitières, etc. Ce qui est vraiment pour le côté plus industriel, là, ça va vraiment être les Américains, parce que souvent, il y a un enjeu, en fait, avec la capacité à exporter certains produits et le fait d'être voisin des États-Unis, mais fait qu'on est capable, justement, de desservir leur marché. C'est pour ça qu'ils vont aller plus vers ce type d'industrie.
Celui que vous venez d'entendre, c'est Pierre Graff, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, qui se spécialise depuis 5 ans dans le reprenariat parce qu'il voyait la vague venir aussi. Mm-hmm. Puis, tu sais, on parle des entreprises qui sont convoitées par les Américains, surtout au niveau manufacturier, celles qui sont convoitées au niveau chinois par surtout l'agriculture. Mais les petites PME, là, qui n'apportent pas nécessairement d'argent pour les Américains ou encore qui ne peuvent pas se faire greffer à une autre entreprise, c'est souvent celles-là qui font faillite, mais qui sont nécessaires à notre économie, à nous. Ça, c'est une grande problématique. Là.
Le fameux sous-traitant, je vais le dire comme ça, d'une grande compagnie mm-hmm. qui a des bons liens de confiance avec ces compagnies-là. La tête dirigeante part, il n'y a personne pour prendre la relève. L'entreprise meurt parce que les grandes compagnies vont peut-être se tourner vers une PME qui est plus près d'eux. Mais les faisaient confiance avec celle-là au Québec parce que le lien d'affaires était créé.
Par exemple, c'est une entreprise qui embauchait ici.
Oui.
Qui payait taxes et impôts.
Ben oui.
Qui revitalisait un secteur territorial.
Exactement.
Qui faisait rouler d'autres économies avec l'achat de matières premières, avec les commerces autour. Mm-hmm. Juste un employé qui va dîner au resto d'à côté, ça compte. Ben, on voyait que oui. les fonctionnaires ici à Québec. Puis c'est une réalité de reprenariat qui a énormément changé avec le temps. Tu sais, j'ai posé la question à Pierre Graff. Dans le temps, tu n'avais presque pas le choix. Si tes parents étaient en entrepreneuriat, ben, tu prenais les rênes de l'entreprise, que ça te passionne ou pas de faire des bouchons de bain, toi. Si ça ne te passionnait pas, c'est pas grave. Maintenant, tu te mettais à faire des bouchons de bain dans ta vie professionnelle adulte. C'était presque automatiquement les enfants, mais ça a beaucoup changé.
Exactement. Avant, il y a plus de la moitié, bien encore aujourd'hui, plus de la moitié des entreprises sont familiales au Québec. Par contre, avant, c'était un peu quelque part obligatoire pour les enfants de reprendre les entreprises. C'est plus le cas maintenant. Et donc, puisqu'il y a beaucoup plus de possibilités de choix de carrière, eh bien, ils doivent se tourner vers l'extérieur. Et malheureusement, dans ce temps-là, ben, c'est sûr qu'on a une culture peut-être du repreneuriat qui est un peu moins présente. On pensait plus à démarrer des entreprises qu'à reprendre des entreprises. Ça change doucement, mais ça fait qu'on a quand même un enjeu. Et surtout qu'en plus, les boomers, qui sont la génération qui cède actuellement, ont tendance à vouloir cacher le fait qu'ils vont céder leur entreprise dans un horizon relativement proche. Et ça, c'est un immense enjeu pour l'économie du Québec.
J'imagine que le nombre aussi d'enfants qu'on a. Tu sais, à l'époque, j'ai une entreprise, mais j'ai fait 8 enfants. Bien, il y a plus de chances. Puis là, c'est très statistique, là, mon modèle.
T'en as un qui soit intéressé à faire des bouchons de bain.
C'est ça. Oui. Si j'en ai deux, puis il y en a un qui veut rien savoir de l'entrepreneur. Puis l'autre veut savoir de quoi, mais il y a tellement d'idées dans sa tête que ça ne tente pas de faire les bouchons de bain. Bien là, tu te retrouves le bec à l'eau, c'est le cas de le dire.
Il y avait aussi, par contre, une hiérarchie. Le premier ou la première, surtout
oui,
le premier de famille,
vrai.
Était la personne qui devait serrer les dents, là, mm-hmm. comme dans une famille royale qui devenait le roi après avoir été prince. Puis que si ouais. c'était le premier gars de la famille, ben c'était ouais. la 7e merveille du monde, enfin, tu sais.
Ouais, là, la mère disait, « Toi, sache là, que quand ton père a vu que t'étais un petit gars, il a dit, lui... » c'est lui qui reprend l'entreprise.
C'est toi qui vas gérer le royaume, ouais, le patrimoine familial. Il y a quelque chose qui a changé aussi, selon Pierre Graff, c'est il y a une fausse mentalité autour du fait d'être discret. Quand on veut faire passer l'entreprise aux mains de quelqu'un d'autre, ça peut vraiment nous nuire de ne pas en parler, de ne pas planifier. Il y en a qui ont des fausses croyances autour de ça. Puis on en jasait avec l'économiste de formation Nathalie Rivin dernièrement de l'école d'entrepreneurship de Beauce qui nous disait, un, faut le dire, parce qu'il y en a qui veulent prendre les rênes d'une entreprise, mais ils ne savent pas qui est disponible. Fait que si on n'en parle pas, ben on échappe bien sûr des candidats intéressants. Il faut aussi intéresser ces jeunes-là un peu plus. Oui. Il y en a moins intéressés. Mais quand on parle de fausses croyances, voici Pierre Graff.
Il y a une fausse croyance que si on ne dit pas qu'on cède l'entreprise prochainement, on va perdre des clients, des fournisseurs, on va perdre peut-être même des employés. Et en fait, c'est tout le contraire, parce que si on prépare bien son plan de transfert, si on identifie sa relève, qu'on se laisse le temps de bien transférer l'entreprise, ben, ça va rassurer toutes ces personnes-là et ça vraiment ajoutera beaucoup de chances de succès à la pérennité de l'entreprise après le transfert.
On a toute cette crainte-là parce qu'on dit si je démontre que là, je recherche quelqu'un, il y a peut-être des gens qui vont penser que je ne suis pas en santé financière. Tu sais, c'est,
il y a plein de choses. Oui. Il y a l'apparence de ça. Il y a le fait que certaines entreprises qui font affaire avec toi vont peut-être se dire « Ouf, là, ça va-tu fonctionner le reprenariat? » Fait que je suis peut-être mieux d'aller ailleurs pour être sûr qu'il y ait une longévité dans mon partenariat d'affaires. Fait que le fait de l'annoncer à ses clients, de le dire, ça crée une confiance, une stabilité, de présenter les prochains qui vont prendre les mains de l'entreprise aussi. Ça fait vraiment toute une différence. Puis quand je te parlais avec Dany Pelletier de cette avance-là qu'il faut prendre, hein, plus d'un an, plus de 3 ans des fois, faire un plan d'intervention pour le reprenariat, Dany Pelletier qui est à la FTQ, pour eux, ils ont des manuels, ils ont des façons de faire, sont là pour chapeauter les entrepreneurs. Si vous posez des questions, allez-y du côté de la FTQ, ils vont vous aider. Si vous êtes jeune, vous voulez être en entrepreneuriat, mais il n'y a personne dans votre famille qui font des bouchons de bain, allez voir du côté de l'entrepreneurship de Beauce, l'école. Ils vont vous mettre en contact avec des gens d'affaires. Mais surtout, encourageons aussi les genres de profils qui ne sont pas types à l'école, mais qui ont des bonnes visions puis une tête exceptionnelle pour réussir en affaires.
Ça, c'est un excellent point. Encourageons ces jeunes-là, justement, à persévérer parce qu'on va avoir besoin d'eux, il n'y a pas de doute. Semaine nationale du reprenariat, on le rappelle. Alors, dossier très, très, très important. 16 000 entreprises dans les prochains mois au Québec qui vont changer de main. Je pense à ça, puis j'ai des craintes pour notre économie, fait que j'espère que tout va bien se passer.
C'est le point majeur là-dessus, moi aussi, j'ai des bonnes craintes.
Ah, vraiment. Rappelle-nous, Pascal, en terminant, les deux rendez-vous importants ce soir qui vont se dérouler au sud de la frontière.
Je commence avec celui de Donald Trump, OK? Le président américain doit s'adresser à la nation ce soir, 21h. Je commence avec ça parce que c'est un peu moins jojo. Hein,
check bien ça, je vais t'imiter Donald Trump, mais en français, OK? C'est extraordinaire ce qu'on fait. La guerre en Iran, on a anéanti l'Iran.
On a le pouvoir sur
l'Iran.
Depuis
que je suis au pouvoir, l'économie n'a jamais aussi bien été. OK, c'est beau, j'arrête. Je vais ennuyer les gens.
Ça se peut très fortement que ça ressemble à ça. Il a déjà affirmé que les États-Unis pourraient se retirer du conflit très bientôt. Il évoque un délai de 2 à 3 semaines. Sans condition, il y a un accord. Du côté du nouveau régime iranien, on est moins radicalisé, mais on vient de demander le cessez-le-feu aux États-Unis. On examine la question parce qu'on veut que le détroit d'Ormuz sera libre et sécurisé avant ça. C'est un peu les conditions des États-Unis. Sinon, super rendez-vous. Et c'est là que c'est le fun. À vos écrans, mesdames et messieurs. Et il y a déjà un live là-dessus qui est en cours sur les réseaux sociaux. C'est la mission Artemis 2 de la NASA. Ça doit décoller aujourd'hui, 18h24. Et ça marque le premier vol habité en direction de la Lune depuis la fin du programme Apollo en 72. C'est en Floride. Et il y a le Canadien Jeremy Hansen à bord de la capsule Orion. Premier Canadien.
On vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute de l'émission On en jase sur Boulevard 102. On sera de retour demain midi, moi-même Jeff Fortin avec Pascal CV et Antonine Iaccarini dans le caucus. Le retour de Gravel suit à l'instant même avec Denis, Audrey et Gab Marino. Et sur ce, passez un très bel après-midi.
C'est tout ce que vous méritez. Et à demain.
À demain.